Mardi 29 novembre, il est 16h et des poussières. Le mercure affiche 8 degrés au centre-ville de Victoria. Merci de s'intoniser CILS FM 107,9, la radio communautaire francophone la plus à l'ouest en Amérique. Alexis Gagnon au micro avec vous pour les 60 prochaines minutes. Le débrief commence tout de suite avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Je vous reviens dans moins de 5 minutes avec la météo détaillée. Ce sera suivi du Radio-Journal des Nations Unies et par d'autres actualités, provinciales notamment. En interview aujourd'hui, en toute fin d'émission, nous retrouvons en studio Dominique Wozniak de la Société francophone de Victoria. Dominique vient nous parler de deux activités du temps des fêtes se tenant le samedi 10 décembre. Cette interview sera diffusée vers 16h50. Restez à l'écoute. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Sécurité publique Canada lancera le processus d'appel pour le programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque le 1er décembre prochain. Ottawa a dit vouloir ainsi aider les collectivités à se protéger des crimes motivés par la haine. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué qu'un plus grand éventail de coûts sera maintenant considéré comme admissible. L'argent va couvrir le coût d'amélioration mineure de l'infrastructure de sécurité, comme l'éclairage, les clôtures, les caméras et les systèmes d'alarme. Les projets approuvés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du coût total, et ce jusqu'à concurrence de 100 000 $ par projet. C'est le 6 décembre prochain qu'aura lieu la conférence du gouverneur général du Canada sur les commotions cérébrales dans le sport. L'événement se tiendra à Rideau Hall. Le gouverneur général a dit que les participants, athlètes et dirigeants sportifs voudront apporter leur contribution substantielle aux travaux en cours dans ce dossier. Catherine McKenna a annoncé un projet de règlement visant à réduire les hydrofluorocarbones au pays. Cette mesure réduirait la consommation annuelle de ces gaz à effet de serre au Canada de 85 % d'ici 2036. La fabrication et l'importation au Canada des HFC et les nouveaux produits contenant ces gaz seraient visés par cette politique. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique a déclaré que ces gaz comptent parmi les plus puissants gaz à effet de serre au monde. Elle a ajouté que cette mesure serait synonyme de retirer près de 2 millions de véhicules des routes canadiennes sur une période de 23 ans. On rappelle qu'un CF-18 des Forces armées canadiennes s'est écrasé lundi après-midi en Alberta. Un hélicoptère de la base de Cold Lake a été dépêché dans les minutes qui ont suivi l'écrasement pour constater les dommages et secourir le pilote. Cependant, ce dernier est décédé dans l'écrasement. Les Forces armées canadiennes ont confirmé la mort du pilote sur Twitter. Le bureau du premier ministre Trudeau a confirmé aux médias que Justin Trudeau n'assistera pas aux funérailles de Fidel Castro. Il est à noter que le gouverneur général du Canada, David Johnston, est à La Havane aujourd'hui pour assister à une commémoration à l'honneur de l'ancien président cubain. Aucune raison précise n'a été annoncée pour expliquer la décision de Justin Trudeau. Sondage réalisé par les Forces armées canadiennes à la suite du rapport sur les inconduites sexuelles dans l'armée canadienne, et le sondage nous apprend qu'environ 27 % des femmes militaires auraient été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur carrière. De plus, 3,8 % des hommes ont dit avoir été victimes également d'agressions sexuelles. Réalisé par Statistique Canada, le sondage a permis de recueillir les commentaires de 43 000 membres des Forces armées canadiennes entre avril et juin dernier, soit plus de 50 % des effectifs militaires canadiens. La possibilité de voir Mitt Romney accéder au poste de secrétaire d'État américain semble provoquer des remous au sein même de l'équipe de Donald Trump. Kellyanne Conway, qui a mené la campagne de Trump à la suite du départ de Paul Manafort en juin dernier, a émis des critiques. Elle a déclaré, entre autres, sur les ondes de CNN que Romney n'a pas sa place dans la future administration en raison de ses attaques à l'endroit de Trump lors des primaires républicaines et de l'élection présidentielle. Rappelons que Romney a dit à maintes reprises que l'homme d'affaires n'avait nullement le profil pour occuper le bureau ovale. Un rapport publié par Marché des capitaux CIBC indique que le déclin de la qualité des emplois depuis les années 90 au Canada fait en sorte que les Canadiennes et Canadiens pourraient avoir du mal à traverser d'éventuelles récessions. Benjamin Tall, économiste en chef chez CIBC, croit que la qualité des emplois est en déclin. Selon le rapport, la proportion des Canadiens dont le revenu annuel se situe sous le salaire moyen est passée de 58 à 61 % depuis 20 ans. Rappelons que le salaire moyen actuel au Canada est d'environ 25 $ l'heure. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire des Islanders de New York 2-1 contre les Flames de Calgary. Le match a nécessité la présentation d'une période de prolongation. Et victoire également de Saint-Louis 4-3 contre Dallas. Ce soir, Buffalo sera à Ottawa, Toronto à Edmonton, Montréal à Anaheim. Vancouver recevra le Minnesota et le New Jersey sera à Winnipeg. NFL, match du lundi soir, hier, victoire de Green Bay 27-13 contre Philadelphie. Dans la NBA, victoire de Toronto 122-95 contre Philadelphie. Et de retour au hockey, eh bien Hockey Canada a annoncé lundi que la ville d'Edmonton sera l'hôte de la Coupe Ivanlinka en 2018, 2020 et 2022.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief. Il est 16h05. Nous avons 8,3 au centre-ville de Victoria. Le scénario de pluie se reproduit au cours des prochains jours. Donc on a actuellement des prévisions de pluie pour la soirée avec un maximum de 6 degrés dans la journée de mercredi, donc demain 30 novembre. C'est la même chose qui se reproduit, 10 degrés au mercure avec de la pluie intermittente. Jeudi 1er décembre, 9 degrés avec 60% de probabilité d'averse. Vendredi 2 décembre, 10 degrés avec de la pluie également. Et pour le week-end, pour ce que on peut présumer, enfin ce sont les projections d'Environnement Canada, pour le week-end, on a encore de la pluie. Donc samedi 3 décembre, 9 degrés avec de la pluie intermittente et dimanche 4 décembre, 7 degrés, 60% de probabilité d'averse. Et si l'on en croit le portail météo.gc.ca, on aura du soleil lundi 5 décembre. On s'achemine bientôt vers le bulletin des Nations Unies. Au retour, ce sont les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre des milliers de déplacés par les combats à Alep-Est. Ban Ki-moon préoccupé par le regain de violence en Centrafrique. Près de 100 000 Africains fuient vers le Yémen malgré le conflit et endossé l'appel de l'OMS à améliorer l'accès à l'autodépistage du sida. L'actualité, c'est toujours la Syrie et l'évolution alarmante de la situation à Alep-Est. Selon les derniers chiffres, plus de 16 000 personnes ont été déplacées par les récents combats acharnés dans la partie orientale de la ville qui est en partie aux mains des insurgés. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires avertit que plus aucun hôpital n'y est en état de fonctionner. Les stocks de vivres sont pratiquement épuisés et il est probable que des milliers d'autres personnes prendront la fuite si les combats se poursuivent dans les jours à venir. Jens Larke, porte-parole de l'OCHA à Genève.
Environ 10 000 personnes sont allées directement vers l'Est, dans les quartiers contrôlés par le gouvernement. Nous avons le croissant syrien qui sont là. Environ 4 000 à 6 000 personnes se sont enfuies vers le nord, dans les quartiers qui s'appellent Sheikh Maksoud, qui est contrôlé par les forces kurdes. Ils ne sont pas des réfugiés, ils sont déplacés internes. Ils s'ajoutent à d'autres déplacés qui étaient déjà là, à Alep de l'Est et à Alep de l'Ouest, qui se trouve également dans une situation très précaire. Nous savons que, par exemple, la nourriture des Nations Unies sont finies dans l'Est. Nous avons toujours en stock la nourriture et d'autres formes de l'aide humanitaire dans l'Ouest que nous essayons de fournir aux gens nouvellement déplacés.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est profondément préoccupé par le regain de violence survenu la semaine dernière en République centrafricaine, alors que deux groupes armés, factions de l'Axe Seleka, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et l'Union pour la paix en Centrafrique, se sont affrontés à Bria, dans la préfecture de la Haute-Koto. Des affrontements qui auraient fait de nombreuses victimes. Jérôme Longuet.
Des dizaines de personnes auraient été tuées, blessées et plus de 11 000 déplacées en Centrafrique. Un grand nombre de victimes seraient des civils ciblés sur des bases ethniques. Face à ces constats, le secrétaire général rappelle que le 17 novembre, la conférence de Bruxelles a souligné la volonté de la communauté internationale de soutenir le relèvement et la stabilité en RCA. Or, pour cela, insiste Ban Ki-moon, toutes les conditions doivent être remplies. Aussi enjoint-il aux groupes armés de cesser immédiatement les violences et de s'engager de bonne foi dans les efforts visant à traiter les causes profondes du conflit, notamment par la mise en œuvre du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration récemment approuvé à Bangui. Le secrétaire général qui souhaite que la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, prévue à Libreville le 30 novembre, permette de renforcer les efforts entrepris par les autorités centrafricaines en vue de consolider la paix et d'engager le pays sur la voie du relèvement et de la stabilité.
Et puis en République démocratique du Congo, près d'une quarantaine de personnes ont été kidnappées samedi dans les territoires de Dungu, dans le Haut-Uele, après une attaque présumée de l'armée de résistance du Seigneur. Ce mouvement rebelle a vu le jour en Ouganda à la fin des années 80, mais est aussi présent dans plusieurs pays de la région. La correspondance d'Anselme Massoua de Radio Okapi.
C'est vers 23h, déclare un habitant de Bokudangba, village situé entre le groupement de Gangala et le poste d'état de Doruma, que l'incident a eu lieu. Les assaillants soulignent cet habitant ont profité du départ d'une délégation officielle venue voir les réfugiés du Soudan du Sud dans le site de Gangala pour commettre le forfait. La délégation, selon la même source, était constituée de la Commission nationale pour les réfugiés, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des FRDC de la MONUSCO. Tous les médicaments, les matériels, l'argent et les documents qui se trouvaient dans les postes de santé de Bokudangba ont été emportés, raconte l'informateur, et d'ajouter que ces hommes en armes ont réussi à maîtriser une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, pour le transport des biens pillés, des greniers et des domiciles. Une heure après avoir regagné la forêt, poursuit la même source, les assaillants ont relâché quatre des personnes enlevées, parmi lesquelles un militaire FRDC dont l'arme a été ravie. Jean-Pierre Etena, administrateur du territoire intermédiaire de Dungu, confirme les faits. La zone opérationnelle a déjà déployé une unité combattante pour traquer ces hommes en armes, affirme-t-il. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Depuis le début de l'année, plus de 100 000 Africains ont fui vers le Yémen malgré le conflit qui fait rage dans ce pays. La majorité sont des Éthiopiens et des Somaliens qui cherchent à rejoindre l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, voire même l'Europe. Le commissariat de l'ONU pour les réfugiés craint le risque de manipulation de la part des passeurs et est en train d'initier une campagne d'information pour prévenir ces migrants des dangers. Les précisions de William Spindler, porte-parole du HCR.
Parfois, il s'agit de personnes qui n'ont pas d'informations sur la situation au Yémen ou des informations qui ne sont pas correctes. Mais parfois, il s'agit aussi de personnes qui n'ont pas le choix, qui doivent quitter leur pays à cause de la misère ou des conflits aussi. Il y a eu des morts, même si les chiffres sont moins élevés qu'en Méditerranée, mais ils risquent aussi d'être exploités une fois qu'ils arrivent au Yémen. Il y a des exemples d'exploitation sexuelle, des exploitations de travail par les passeurs qui essayent de les amener vers des autres pays, notamment vers les pays du Golfe.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
À l'approche de la Journée mondiale du sida, l'Organisation mondiale de la santé appelle les États à améliorer l'accès à l'autodépistage. Selon les estimations de l'OMS, près de 40% des porteurs du VIH ne connaissent pas leur statut. Et l'autodépistage permettrait à de nombreuses personnes non seulement de connaître leur statut, mais aussi de savoir comment obtenir un traitement et d'accéder aux services de prévention. Les explications de Grégory Hertel, coordonnateur des médias à l'OMS. Il est au micro d'Alpha Diallo.
L'autodépistage, c'est exactement comme un test de dépistage dans une clinique ou dans un centre médical, mais c'est un test que vous pouvez faire chez vous. Donc, dans le privé, dans votre maison, votre foyer, c'est le même test et vous avez les résultats dans 20 minutes si vous êtes séropositif ou négatif. Les tests existent déjà depuis pas mal de temps, peut-être déjà 20 ans, mais ce qui est très important maintenant, c'est que vraiment on conseille aux États membres, à d'autres organisations et les personnes qui décident, les politiques sur le sida, d'incorporer ces tests d'autodépistage dans la gamme de tous les outils que nous avons pour combattre le sida. C'est très important parce qu'il faut trouver un moyen d'accéder, d'identifier à ces 14 millions de personnes qui ne connaissent pas leur statut.
Mais en quoi ce nouveau test d'autodépistage va améliorer l'accès au diagnostic et surtout la lutte contre le VIH?
Une fois que vous connaissez votre statut, c'est toujours conseillé d'aller à une clinique ou un centre médical pour un test de confirmation. On a toujours besoin d'un test de confirmation si le premier test est positif. Mais une fois que vous êtes dans le centre, vous avez aussi un accès immédiate à d'autres services, services de soutien, services de traitement. Et plus tôt qu'on rentre dans le système, qu'on reçoit un traitement, plus grandes sont les chances de survie. Aussi, ce qui est important, c'est que si vous connaissez votre statut, vous pouvez protéger vos proches.
L'OMS indique que 3 pays d'Afrique australe ont mis en œuvre cet auto-dépistage. Quels sont ces 3 pays et avec quels résultats?
Oui, donc Malawi, Zimbabwe et Tanzanie ont déjà commencé ces projets d'auto-dépistage et les résultats sont très prometteurs. Donc, on a vu qu'on a eu accès à 2 groupes qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait vraiment de tests de dépistage, c'est-à-dire surtout des hommes. Les hommes vont beaucoup, beaucoup moins souvent à des centres de santé qu'une femme, et aussi les jeunes. Donc, chez les jeunes, chez les hommes, on a un taux beaucoup mieux maintenant grâce à ces tests. N'importe quelle région du monde, il faut trouver un moyen de laisser ces personnes faire leurs propres tests en confiance, en sécurité. Et donc, on a vu maintenant les résultats de les essais et les programmes dans ces 3 pays africains que d'un coup, des hommes, les jeunes, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus probable qu'ils fassent un premier dépistage et qu'ils sachent s'ils sont séropositifs ou séronégatifs. Le taux de séropositif est 7 fois plus élevé chez les femmes adolescentes que chez les hommes. Donc ça, c'est un groupe hyper important à accéder. Les jeunes en général, c'est très important qu'ils sachent leur statut.
Aujourd'hui, quels sont les défis dans la lutte contre le sida de façon plus générale?
Chaque année, il y a 2,1 millions de nouveaux cas, plus ou moins. Donc ça, c'est resté assez stable pendant les 3, 4, 5 dernières années. Il faut faire une approche globale avec le maximum des outils pour essayer de réduire ce taux, parce que ça, c'est beaucoup trop élevé.
Et c'est avec Grégory Hertel de l'OMS que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition retrouvée sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
h 17, l'info se poursuit dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On va passer maintenant aux nouvelles provinciales. Une importante nouvelle est tombée cet après-midi en provenance d'Ottawa. Donc c'est une nouvelle de dernière heure, si vous voulez. Le gouvernement Trudeau a donné ses réponses concernant 2 importants projets d'oléoduc qui étaient prévus pour la Colombie-Britannique devait se construire. Donc l'un a été refusé, l'autre approuvé. Donc Ottawa a dit non au projet Northern Gateway de la compagnie Enbridge, mais a approuvé le projet d'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Donc dans ce cas-ci, dans le dernier cas de Trans Mountain, c'est un projet d'expansion de pipeline, puisque le pipeline existe déjà. Donc je vous lis quelques lignes de la dépêche qui a paru et qui est encore toute chaude dans le fil de la presse canadienne cet après-midi. Dit, le gouvernement fédéral rejette le controversé projet d'oléoduc Northern Gateway qui devait se rendre jusqu'au nord-ouest de la Colombie-Britannique, mais approuve la proposition de la compagnie Kinder Morgan de tripler la capacité de son oléoduc Trans Mountain jusqu'au port de Burnaby. Le gouvernement donne également son feu vert au prolongement de la ligne 3 entre l'Alberta et le lac Supérieur. Le projet Trans Mountain prévoit faire passer la capacité de l'oléoduc de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour, donc un triplement de capacité. La ligne 3 d'Enbridge, quant à elle, relie depuis une cinquantaine d'années l'Alberta au marché américain, en passant par le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Le nouveau projet prévoit que l'oléoduc de la ligne 3 sera entièrement refait en doublant pratiquement sa capacité dans le même temps. Le projet Northern Gateway, quant à lui, a été rejeté par Ottawa. Il prévoyait faire passer par le nord-ouest du pays le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta en l'acheminant jusqu'au port intérieur de Kitimat en Colombie-Britannique, un pipeline qui aurait traversé la forêt pluviale de Great Bear. Alors, ce projet, on fait un X, on fait une croix dessus. Le gouvernement l'a rejeté. Et quant aux deux projets qui ont été annoncés, c'est Justin Trudeau lui-même qui a pris la parole cet après-midi à Ottawa pour officialiser donc cette décision du gouvernement. Il a soutenu que le projet Trans Mountain, qui va traverser le sud de la Colombie-Britannique et se rendre jusqu'au port de Burnaby, va créer 1500 emplois pour la classe moyenne, dit-il. Il a aussi estimé, rapporte cet article de la presse canadienne, que le projet Kinder Morgan respectait les normes environnementales les plus strictes et qu'il s'inscrivait dans la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques. Alors, vous vous en doutez bien, ces déclarations ne sont pas reçues favorablement par la société civile, du moins les portions de la société civile qui s'opposaient vivement à ce projet partout en Colombie-Britannique. Ça comprend les Premières Nations, les groupes environnementaux et plusieurs élus, surtout des élus municipaux. Et principalement, on peut citer le maire de Vancouver et notre maire de Victoria, Lisa Helps. Et concernant le maire de Vancouver, il a rapidement réagi à cette annonce et émis une déclaration se disant vivement déçu de cette décision du gouvernement Trudeau. On va écouter tout de suite cette déclaration faite par le maire de Vancouver, Gregor Robertson. Aujourd'hui, je vais vous en faire la traduction dans quelques instants. On écoute ça.
I'm Gregor Robertson, the mayor of Vancouver. I am profoundly disappointed in the federal government's approval of the Kinder Morgan pipeline. This is a huge step backwards for Canada's economy and environment and for climate change. This project was driven by the Harper government in a flawed and biased National Energy Board review that is being contested in court to this day. We see it as a direct threat to Vancouver's economy, to our clean environment, and to the successful economy that's created over 94,000 jobs for Canada last year. We stood shoulder to shoulder with First Nations, tens of thousands of citizens of Vancouver, and other communities on the west coast of Canada in opposition to the Kinder Morgan pipeline, and I expect we will continue to strongly oppose this project ever being built.
Alors voilà pour la déclaration faite cet après-midi par le maire de Vancouver, Gregor Robertson, sur le toit de l'hôtel de ville de Vancouver, donc avec en arrière-plan les magnifiques paysages, les montagnes et la ville de Vancouver. Donc en substance, le maire de Vancouver a maintenu son opposition à ce projet d'expansion du pipeline Kinder Morgan. Alors, il a fait part de sa vive déception. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un pas en arrière, d'une régression, et que cette décision d'attribuer un feu vert à Kinder Morgan était nocive pour l'économie comme pour l'environnement, notamment en ce qui a trait aux cibles de réduction canadienne des émissions de carbone. Le maire a aussi rappelé que le projet Trans Mountain, impulsé et piloté par le gouvernement Harper à l'origine, a été traité de façon biaisée et incomplète par l'Office national de l'énergie. L'avis favorable rendu par l'Office national de l'énergie est toujours contesté devant les tribunaux à ce jour, a-t-il souligné dans cette déclaration qu'on peut consulter sur le portail YouTube. Il a aussi indiqué que cette expansion de pipeline constituait une menace directe à l'économie vancouveroise. Il a exprimé sa solidarité avec les Premières Nations et la société civile et s'est engagé à combattre le projet de Kinder Morgan afin qu'il ne se réalise jamais. Donc la partie n'est pas perdue. Le mouvement d'opposition est très fort ici en Colombie-Britannique, donc il faudra suivre ce dossier et c'est ce que nous ferons ici à l'émission Le Débrief. Toujours dans la région vancouveroise, on parle de politique provinciale. Une première femme transgenre nommée par un grand parti au Canada, donc c'est une première canadienne pour la vancouveroise Morgan Hodger, qui est devenue en fin de semaine la première femme transgenre au pays à être nommée comme candidate d'un parti majeur à une élection. Elle tentera de décrocher la circonscription de Vancouver Falls Creek avec le nouveau parti démocratique, le NPD provincial, lors des élections de mai prochain. Elle est mère célibataire de deux enfants, Donc Morgan Hodger est nouvelle dans la vie politique, c'est une recrue. Elle possède néanmoins une longue expérience d'activiste et elle est reconnue un peu partout en Colombie-Britannique. Elle a été bénévole lors de plusieurs scrutins municipaux, provinciaux et fédéraux. « Si je remporte l'élection », a-t-elle déclaré, « je deviendrai la première personne transgenre dans l'histoire du Canada à être élue ». Plus tôt cette année, cet article de Radio-Canada rappelle qu'une Winnipegoise transgenre qui faisait campagne sous la bannière libérale, Shandy Strong, avait été battue aux élections provinciales du Manitoba. Mais l'article signale que, contrairement au NPD de notre province, la Colombie-Britannique, le Parti libéral du Manitoba n'est pas un parti important au Manitoba, donc il ne s'agissait pas véritablement d'une première de ce côté-là. Et toujours dans les déclarations faites par cette candidate, maintenant que nous lançons officiellement la campagne, les choses sérieuses vont commencer. Nous avons un long chemin devant nous, a-t-elle expliqué, indiquant qu'elle était bien consciente que les néo-démocrates provinciaux, qui n'ont pas été au pouvoir à Victoria depuis plus de 20 ans, ont un retard conséquent à rattraper au cours des prochains mois. Je sais ce que cela signifie d'être marginalisé, ce qu'est la discrimination systémique de toutes les sortes de communautés, a-t-elle dit. La Colombie-Britannique est une province qui a besoin de quelqu'un de capable de travailler pour tout le monde, sans distinction aucune. La circonscription de Vancouver, False Creek, est actuellement sous le giron libéral. C'est l'élu Sam Sullivan qui détient cette circonscription. Les élections, précise cet article de Radio-Canada, auront lieu le 9 mai 2017. Toujours sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, on nous signale que deux nouveaux programmes visant à combattre la crise des surdoses de drogue ont été mis en place. La Régie de la Santé Vancouver Coastal finance deux nouveaux programmes pour mieux répondre aux surdoses de fentanyl dans le Downtown Eastside. Vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada. Du côté anglophone, sur le portail de CBC, on a un article sur les effets de la popularité du réseau Airbnb, donc un réseau de location temporaire pour touristes qui ne fait pas des heureux dans l'industrie de l'hôtel, de la restauration et de l'hôtellerie ici à Victoria. Donc cet article du portail CBC cite un directeur général d'hôtel qui se plaint de l'effet important qu'a eu l'arrivée d'Airbnb dans le marché de Victoria. Et ce décideur qui travaille à l'hôtel Laurel Points indique que Airbnb devrait payer des taxes comme tout le monde. Alors, il ne contribue pas comme le font les hôtels. Ils ne sont pas imposés comme le sont les hôtels, rappelle-t-il. Il mentionne que dans certaines villes où Airbnb s'est implanté, il y a des problèmes de logement pour les employés des hôtels et pour la population en général. C'est le cas de Tofino, par exemple, où les hôtels ont du mal à loger leurs employés car Airbnb a grugé une part du marché locatif. Ce même directeur général qui travaille à l'hôtel Laurel Point assure que des plans de construction d'hôtels ont été mis sur la glace dernièrement en raison de la propagation des services d'Airbnb. Donc vous trouverez cet article sur le portail de CBC. Ça s'intitule « Victoria Hotelier calls for fair taxation of Airbnb rentals ». Sinon, on peut peut-être signaler en terminant ce bloc provincial que Radio-Canada s'est déplacé du côté de Vancouver, donc les journalistes de Montréal, donc de Radio-Canada Montréal, s'intéressent au train, au transit, au système de transport en commun de Vancouver et en particulier à la Canada Line qui relie l'aéroport au centre-ville notamment. Pourquoi? Parce que un train semblable sera bientôt construit à Montréal et donc Radio-Canada s'intéresse à cette ligne de transport en commun qui est installé à Vancouver depuis quelques années déjà. Donc, c'est un train léger sur rail. Montréal en disposera d'un tel système également prochainement, d'ici quelques années. Donc, c'est sur le portail de Radio-Canada. Ça s'intitule « Un tour dans le train électrique de Vancouver ». On s'arrête quelques instants en musique. On va écouter une chanson de Noël, un standard, comme disent les musiciens jazz, qui s'intitule « Have Yourself a Merry Little Christmas ». Vous allez reconnaître tout de suite. C'est par la formation Trio Barbecue. On se retrouve de l'autre côté.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight.
Bayou, 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 bayou.
Souvenir de douce nuit de Noël. Bonheur
d'une langue à l'autre dans ce standard Have Yourself a Merry Little Christmas par la formation Trio Barbecue. C'est dans le débrief à 16h32. On a 8 degrés au centre-ville. Très peu de pluie actuellement sur le site de l'île de Vancouver. Il y a quelques averses sur la transcanadienne à hauteur de Duncan, mais c'est à peu près tout. On va passer aux nouvelles du jour. Le vérificateur général Michael Ferguson perd patience et savonne Ottawa. C'est dans la presse canadienne. Le vérificateur général du Canada montre des signes grandissants d'impatience face au gouvernement fédéral, à qui il a rappelé de manière grinçante mardi que les ministères doivent être construits autour des citoyens et non des processus. Peu de ministères sont épargnés dans les rapports de Michael Ferguson et tous semblent atteints du même symptôme. Ils affichent des lacunes en matière de reddition de comptes et peinent à offrir un bon service, source de frustration croissante chez les citoyens, a déploré l'agent du Parlement. Le vérificateur général fustige notamment le plan d'action par-delà la frontière. Le projet est doté d'un budget de 1,1 milliard de dollars dans lequel ont été investis 600 millions de dollars jusqu'à présent devait faciliter la circulation des biens et des personnes à la frontière canado-américaine et renforcer par le fait même la sécurité. Or, Ottawa ne peut prouver que la circulation est plus fluide à présent ou que la sécurité nord-américaine s'en porte mieux. Le chien de garde critique aussi le traitement réservé aux autochtones par Service correctionnel Canada qui accorde des libérations conditionnelles seulement aux tiers des détenus autochtones. Et le ministère des Affaires autochtones n'est pas épargné, lui non plus. Le vérificateur constate un mélange d'opacité et de compression qui entrave le processus de revendication des Premières Nations. Le ministère Transport Canada est également la cible des critiques du vérificateur, donc Michael Ferguson, et même l'Agence du revenu en prend pour son grade également. La situation n'est pas rose du côté de l'Agence du revenu du Canada, peut-on lire dans cet article de la presse canadienne, où l'on s'accorde environ 5 mois pour décider de dossiers très simples et jusqu'à 1 an avant de communiquer avec les contribuables dont les dossiers sont moyennement complexes, a relevé le vérificateur général. Le ministère de la Défense en prend aussi pour son rhume, ayant échoué à augmenter la représentation féminine dans l'armée et rater ses cibles de recrutement, ce qui laisse présager que l'objectif de 68 000 membres dans les forces armées d'ici 2018-2019 ne sera pas atteint. L'agent du Parlement, qui en est à la mi-mandat actuellement, semble à court de patience. Il a donc exhorté le gouvernement fédéral à passer de la parole aux actes dans le discours qui accompagnait ses rapports. Car il n'y a rien de nouveau dans les enjeux signalés par ces récents audits, a-t-il écrit. Dans certains cas, certains des problèmes identifiés dans le passé se sont aggravés, a-t-il insisté dans une allocution. Les ministères doivent comprendre que leurs services doivent être construits autour des citoyens, a-t-il martelé. Lorsqu'ils travaillent à la mise en œuvre de nos recommandations, je les encourage à prendre du recul et à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour offrir des services qui fonctionnent pour la population canadienne. Le gouvernement et l'opposition n'ont pas encore réagit aux conclusions du vérificateur général. Donc cet article paraît aujourd'hui dans le fil de la presse canadienne. Ça s'intitule « Le vérificateur général Michael Ferguson perd patience et savonne Ottawa ». Autre nouvelle dans cette portion nouvelle du jour de l'émission Le Débrief, la Cour suprême se penche cette semaine sur 2 dossiers autochtones. C'est rapporté par l'agence France Presse. 2 dossiers qui seront présentés devant la Cour suprême cette semaine pourraient devenir des jalons importants pour définir comment le gouvernement canadien peut intervenir sur les activités industrielles en territoire autochtone, selon des experts. Clyde River, se situe l'une de ces pommes de discorde, c'est dans le Grand Nord canadien, demandera à la Cour suprême mercredi d'infirmer la décision de l'Office national de l'énergie d'accorder un permis à un consortium norvégien afin que ce dernier puisse effectuer des essais sismiques dans la baie de Baffin. En vertu de ce permis, pendant les périodes d'activité, le consortium pourra provoquer des détonations de 230 décibels toutes les 15 secondes, 24 heures par jour, et ce, durant une durée de 5 ans. Aucune consultation publique n'a été organisée et les habitants de cet endroit dans le Grand Nord canadien n'ont eu aucune chance d'examiner le projet. L'Office national de l'énergie ne s'est même pas demandé si elle avait respecté les obligations constitutionnelles du Canada, a indiqué l'un des avocats de la communauté autochtone de Clyde River. Autrement, en Ontario, il y a le cas des Chippewas, c'est une Première Nation, qui sont situées au beau milieu d'un projet industriel eux aussi. La Première Nation de l'Ontario, donc Chippewas, souhaite que la Cour suprême invalide le permis délivré à Enbridge qui prévoit inverser le sens de l'écoulement de la section d'un pipeline entre Sarnia et Montréal. Ni la Couronne ni l'Office national de l'énergie ne se sont engagés dans une consultation sérieuse avec les Chippewas concernant la nature de leurs droits droits et de leurs intérêts revendiqués, a écrit la communauté chippewa dans son plaidoyer remis à la Cour suprême. Donc, dans les deux cas qui sont cités dans cet article de l'agence France Presse, Ottawa affirme que l'Office national de l'énergie avait la compétence pour représenter la couronne et que les groupes autochtones avaient bénéficié de plusieurs occasions pour exprimer leurs inquiétudes. Les deux poursuites visent à infirmer le jugement en cour d'appel fédéral qui s'était rangé du côté du gouvernement préalablement. Ces dossiers auront un impact majeur sur la gestion de tels projets d'énergie et projets industriels par le gouvernement fédéral, a prédit Nigel Banks, qui est président de la chaire en droit des ressources naturelles à l'Université de Calgary. Cela soulève la question à savoir si un office, comme l'Office national de l'énergie, a le devoir de se saisir d'une affaire si la couronne se décharge de ses responsabilités de consulter et d'accommoder, a expliqué le spécialiste. Cela remet en question que nous avons au Canada des projets linéaires qui affectent tant de communautés différentes. Par conséquent, le défi de la consultation et de l'accommodement est beaucoup plus difficile, a-t-il ajouté. Donc voilà, donc cet article à propos de deux importants dossiers qui sont devant la Cour suprême cette semaine. Ça paraît dans le fil de l'agence France Presse. La Cour suprême se penche cette semaine sur deux dossiers autochtones. Sinon, dans le journal Les Affaires, un journal qui se concentre sur les questions économiques et la finance, on signale qu'aux États-Unis, aujourd'hui, ont eu lieu plusieurs manifestations. Plusieurs milliers de personnes manifestaient à travers le pays, donc à travers les USA, pour réclamer des salaires à 15 $ de l'heure, donc un salaire minimum rehaussé, et de nouveaux droits syndicaux. Alors, cette journée de mobilisation avait lieu aujourd'hui partout aux États-Unis pour condamner la précarité que subissent les petits salariés dans ce pays. C'est dans le journal Les Affaires. Autrement, on apprend sur le portail de Radio-Canada que le gouverneur du Dakota du Nord a ordonné l'évacuation du camp de Standing Rock. Alors, Standing Rock, c'est très familier puisque c'est un dossier d'énergie. Donc, c'est un cas de pipeline sur des terres autochtones. Ça vous rappelle sans doute quelques dossiers dont on a parlé dans le débrief dernièrement. Alors, ça se passe du côté des États-Unis. Opposition féroce de la part de la nation Sioux à un projet de pipeline passant sur des terres ancestrales et passant d'autre part sous des cours d'eau importants. Donc, danger pour l'eau potable. Alors, les gens qui étaient réunis sur le trajet, l'itinéraire de ce pipeline projeté seront évacués. Plusieurs étaient là depuis de nombreuses semaines. Ça se passe aux États-Unis. C'est rapporté dans le portail de Radio-Canada. Le gouverneur du Dakota du Nord ordonne l'évacuation du camp de Standing Rock. On fait une petite pause musicale très rapidement. On va écouter une formation qui s'appelle L'Homme Brun. La pièce s'intitule L'Imberbe. On se retrouve dans 3 minutes.
C'est bon, c'est pas parce qu'on te dit oui.
16h44, vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci à ceux qui nous écoutent en rediffusion dans la matinée du 30 novembre. C'est le moment de passer à la revue de presse des éditoriaux. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir faire le tour des éditoriaux aujourd'hui, qu'on sera moins pressé par le temps, qu'on ne devra pas interrompre brutalement pour aller à l'interview. Donc, je me croise les doigts. Le premier texte que je veux vous signaler provient du portail Ricochet. C'est un portail de langue anglaise et française, un portail qui penche à gauche, si vous voulez. Et on trouve un article fort intéressant aujourd'hui sur la mort de Fidel Castro, l'intitulé « Fidel Castro est mort et maintenant ?» point d'interrogation. L'auteur indique que maintenant, rien ou presque, on peut dire qu'il était mort depuis des années, mais que son corps n'a appris la nouvelle qu'il y a quelques jours, m'écrivait un ami cubain samedi, quelques heures après la disparition du leader Maximo. Donc sur l'île de Cuba, il y aura les funérailles, la longue période de deuil, les louanges interminables et probablement l'arrestation de quelques dissidents pour les empêcher de gâcher le dernier hommage au père de la révolution. La vie quotidienne en sera inévitablement perturbée, mais sinon, rien. Depuis l'annonce de la mort de Fidel Castro, la planète entière cherche à déterminer l'héritage que ce chef d'État a laissé au monde et aux Cubains. Fidel Castro, libérateur des opprimés, despote éclairé ou encore dictateur sanguinaire. Alors, la question reste posée, qu'on l'adore ou qu'on l'abhorre, on doit reconnaître qu'il fut l'une des personnalités les plus marquantes et influentes du XXe siècle. Leader d'une si petite île, il a su jouer dans la cour des grands et changer le cours de l'histoire à plus d'une reprise. À l'étranger, plusieurs admirent Fidel Castro pour avoir su tenir tête à son grand voisin américain. À cela, les Cubains de l'île qui habitent l'île rétorquent qu'il est bien facile de saluer cet affront fait aux USA lorsqu'on n'a pas à vivre avec ses conséquences au quotidien. Que reste-t-il des grands projets de Fidel Castro, se demande Ricochet dans cet article. Projets pour lesquels les Cubains et les Cubaines ont tant sacrifié. Il reste bien peu de choses. Après l'enthousiasme des premières années de la Révolution, les minces réalisations de celle-ci n'ont fait que s'effriter. Or, c'est à la pérennité de son legs qu'on devrait juger une figure d'État. À quoi bon édifier une société meilleure si on ne peut assurer la survie de ses acquis et de ses idéaux ? Demande l'auteur. Le système de santé et d'éducation universelle font toujours la fierté du pays, mais pourquoi faire l'effort d'obtenir un diplôme universitaire alors qu'on ne pourra pas vivre du salaire qui en résulte? Mieux vaut tout de suite faire serveur dans un resto de la vieille Havane et gagner en une journée ce que gagne en un mois un scientifique. Comment prétendre, comme le fait le régime, que le pays ne renonce à aucun de ses principes sociaux alors qu'il survit en se mettant à genoux devant les touristes des pays capitalistes et devant leurs devises? Comment parler de bonne gestion de l'économie quand Cuba ne produit pratiquement plus rien et importe 80% de la nourriture qu'il consomme? Pour l'instant, le régime castriste peut mettre la faute de tous ses malheurs sur le dos de l'embargo que les États-Unis imposent à l'île depuis 1962. Le jour où les républicains américains comprendront son caractère contre-productif, la dictature aura beaucoup plus de mal à justifier son incapacité systémique à assurer une vie meilleure aux Cubains. Je vais tout de suite vous donner le nom de l'auteur. J'ai dans mes notes quelque part le nom. Oui, il s'agit de Frédéric Lavoie dans le portail Ricochet, sur le versant francophone de ce portail d'information indépendant. Sinon, dans notre média local, le Taï, un média qui appartient aux habitants de l'île de Vancouver, on retrouve un excellent papier du journaliste Andrew Nikiforuk celui-ci pose 6 questions au gouvernement Trudeau concernant le pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan, et c'est d'autant plus pertinent. Ce papier a été publié quelques heures avant l'approbation par le gouvernement Trudeau de l'expansion de ce pipeline. Donc 6 questions qui demeurent sans réponse à ce jour. Donc je vous cite ces 6 questions rapportées par le journaliste Andrew Nikiforuk. Alors, numéro 1. Est-ce que la construction d'un nouveau pipeline Trans Mountain, donc est-ce que l'expansion de Trans Mountain peut être conciliée avec les engagements qu'a pris le Canada en matière de contrôle du climat? Alors, point d'interrogation. Numéro 2, en l'absence d'un plan, d'une stratégie nationale canadienne en matière d'énergie, comment est-ce que les responsables du gouvernement pourront évaluer les projets énergétiques, les projets du secteur de l'énergie comme celui de Kinder Morgan qui veut augmenter la capacité de Trans Mountain? Alors sans stratégie nationale en matière d'énergie, il est en quelque sorte impossible d'évaluer correctement les projets. C'est ce que sous-entend l'auteur ici. Autrement, comment réconcilier, encore une fois, comment concilier l'approbation de l'expansion du Trans Mountain avec les engagements qui ont été pris auprès des Premières Nations de Colombie-Britannique et devant les Nations Unies, puisque le Canada est signataire de la déclaration de l'ONU concernant les droits des peuples autochtones. Alors, gros point d'interrogation encore là. Question numéro 4. En vertu des changements économiques et des défaillances de l'Office national de l'énergie, comment est-ce que le Canada peut être confiant que les projets d'expansion de pipeline ou de construction de pipeline auront des retombées économiques favorables? Alors, je dois m'arrêter là. Malheureusement, la question 4 concerne la santé des cours d'eau et la préservation du littoral, et la question 6 concerne la légitimité qu'a le gouvernement Trudeau en matière d'énergie, surtout après la campagne de 2015 au cours de laquelle il avait vraiment opposé aux géants de l'industrie pétrolière. Voilà. Alors, on referme tout de suite le bloc des éditos. Celui que je viens de vous citer paraît dans notre média local de Taï. Et on court vers l'interview. Comme je vous le disais en intro d'émission, on reçoit en studio Dominique Wozniak de la Société francophone de Victoria. C'est dans quelques instants. Restez à l'écoute. Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 en fin d'après-midi, du lundi au jeudi. Je retrouve en studio Dominique Wozniak, qui est chargé des communications à la Société francophone de Victoria. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors Dominique, on parle des fêtes de Noël, il n'est pas trop tôt pour en parler, et je crois que la Société a prévu quelques activités pour les membres cette année.
Bien sûr, la Société francophone a contacté comme tous les ans le Père Noël, et cette année le Père Noël avec la Mère Noël et les lutins ont encore répondu présent.
Alors le couple de Noël a accepté l'invitation de la Société.
Oui.
C'est super.
Alors ils seront là le samedi 10 décembre à la patinoire au centre récréatif Perks, 3100 Tillicum Road.
Oui, dans Esquimalt.
Dans Esquimalt. L'après-midi va se dérouler en deux parties. Donc une première partie de 12h30 à 13h35 environ. Donc vous pouvez venir retrouver le Père Noël après avoir profité de la patinoire Gold. Et avant ou après la patinoire, vous pouvez venir au Flipside Room pour savourer un bon chocolat chaud et des gourmandises de Noël.
Excellent.
Ensuite, de 14h à 15h30, Donc là, le Père Noël, normalement, devrait venir, enfin, s'il répond toujours présent, mais jusqu'à présent, il a toujours répondu. Donc il sera là avec la Mère Noël, les lutins, à la salle Owen Room.
Donc tant le Père Noël que la Mère Noël parlent français. Hein,
évidemment.
On... Oh, d'accord.
Évidemment. Et c'est
Paul polyglotte.
C'est Paul-André Mongeau qui reçoit des textos en direct. Le directeur de la société francophone, il est en lien direct avec le Père Noël,
oui.
Et il reçoit des textos. Alors, il faut le suivre, voilà. C'est lui qui a l'information.
C'est lui qui reçoit l'information, ouais. du Père et de la Mère Noël.
Exactement.
À propos de cette visite du 10 décembre. Oui. D'accord.
Alors, le Père Noël nous réserve des surprises, n'est-ce pas, pour tous les enfants qui sont inscrits, parce que c'est très important de s'inscrire.
Et comment fait-on pour s'inscrire ?
Alors, sur Internet, on va sur Internet, sur le site Franco-Centre. On clique sur l'onglet « Actualité ». Et au niveau du calendrier à droite, vous verrez le mois de décembre. Et le 10 décembre, vous verrez le lien qui fonctionne bien pour
D'accord.
vous inscrire.
Donc, c'est déjà possible au jour d'aujourd'hui de s'inscrire à cette activité.
Il est possible de s'inscrire dès maintenant et surtout avant le 7 décembre 23h30 afin d'assurer une surprise du Père Noël pour tous ces enfants inscrits.
Bien
Alors,
sûr.
Le coût est de $5 par enfant et par adulte. Donc, chaque enfant et chaque parent doit s'inscrire individuellement. Donc, ça, c'est important pour nous. Pour
Très
préparer
bien.
Le
bien.
Chocolat chaud, etc. Et si vous voulez faire de la patinoire, les patins sont disponibles à la location pour un coût de $2,50 sur place.
D'accord.
Alors n'oubliez pas votre sécurité et celle de vos enfants. Les casques de vélo, par exemple, les gants et s'habiller pour la circonstance sont hautement recommandés et ne sont pas fournis sur place.
Mmh.
Au moins un adulte doit accompagner un enfant de moins de 7 ans sur la patinoire. Les parents, sur ou en dehors de la patinoire, auront la responsabilité de leurs enfants.
D'accord. Est-ce que ça complète pour cette activité ? Est-ce qu'on passe à l'autre activité qui suivra dans cette même journée du samedi 10 décembre ?
Alors, bien sûr, la société francophone continue la journée du 10 décembre avec un vin et fromage de Noël, cette fois pour les adultes de 19 ans et plus. Alors, cette fête aura lieu au centre récréatif Esquimalt, 527 rue Fraser, à la salle Pionnier. Le stationnement est à votre gauche. Les heures d'ouverture sont de 19h à 22h.
Pour ce vin fromage. D'accord.
Donc nous vous convions le 10 décembre à partir de 19h à notre soirée vin et fromage pour célébrer ensemble Noël à la fin de l'année et la fête de fin d'année.
Mmh.
Votre billet d'une valeur de $7,50 par personne vous donne accès à la fête et à deux verres de vin au choix. Vous avez la possibilité de commander des consommations supplémentaires. Alors encore une fois, pour vous inscrire, vous allez sur le site internet de la société francophone. Donc le site c'est francocentre.com. Sur l'onglet actualité, à votre droite, vous avez le calendrier. Vous cliquez sur décembre, le 10 décembre, et là, vous avez tous les liens nécessaires pour vous inscrire.
Et ceux qui auront fait l'activité de patinage dans la matinée pourront peut-être confier les tout-petits à une gardienne et se rendre au vin fromage dans la soirée. C'est une hypothèse.
Bien sûr, tout le monde est bienvenu. Donc je rappelle, le Noël à la patinoire pour les 12 ans et moins au centre récréatif Perks, le samedi 10 décembre, de 12h30 à 15h30. Et ensuite, pour les adultes 19 ans et plus, le vin fromage de Noël au centre récréatif Esquimalt, de 19h à 22h.
C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Dominique.
À bientôt.
Voilà qui conclut cette édition du débrief en ce mardi 29 novembre. Alexis Gagnon au micro. Merci de m'avoir accompagné dans cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9. On va se retrouver demain 30 novembre, même heure, même fréquence. Soyez à les écoutes.